est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sistas du Next 40 comme vous ne les avez jamais entendus. Animé par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sistas du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Il nous a dit « Je vais vous faire un cadeau, les amis. Vous allez passer un moment exceptionnel, c'est mon coup de foudre professionnel, et j'ai énormément d'admiration pour la femme qu'elle est. » Ces mots, ce sont ceux de Wilfried Granier, au micro de Thomas Benzazon et Olivier Mathieu, lors de son passage dans 40 nuances de Next. Et la femme exceptionnelle dont il parle, c'est Ségolène Moutarde, cofondatrice de Team Starter. Salut Ségolène.
Salut Solène.
C'est super intro ça. Hein,
ah ouais, putain, Wilfried, il rigole pas là.
Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que ces derniers mois, tu te fais rare dans les médias. Donc doublement, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Renforcer l'engagement des collaborateurs en leur permettant de porter des projets concrets dans leur entreprise, c'est la mission que vous vous êtes donnée en 2019 avec ton associé Vincent Desmarres lors de la création de Team Starter. Tu vas nous en parler. Je précise juste qu'en janvier 2024, donc il y a quelques semaines, tu as passé les rênes à un nouveau CEO qui s'appelle Quentin Guilly et tu nous en parleras également dans ce podcast.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Team Starter ?
Ouais, bien sûr. Alors Team Starter, on a cofondé ça avec Vincent et aussi Eric et JC de Matters en 2019. L'idée de départ, c'est de se dire que des bonnes idées dans les entreprises, tous les collaborateurs peuvent en avoir. En revanche, des bonnes idées qui sont réalisées par les collaborateurs en entreprise, c'est plutôt rare. Et nous, on pense que tout ce qui est baby-foot et corbeille de fruits, c'est pas ce qui va venir embarquer les collaborateurs. Moi, j'y crois peu, même si c'est très bien d'avoir un baby-foot.
Et des fruits.
C'est bon pour la santé. Mais je pense sincèrement que c'est en donnant la capacité d'agir aux collaborateurs, en leur permettant d'être acteurs de leur entreprise et de prendre des initiatives au quotidien, je pense que c'est le meilleur moyen d'embarquer les collaborateurs au quotidien et leur donner du sens pour qu'ils soient épanouis dans leur travail et qu'ils soient vraiment acteurs et réalisateurs de leur quotidien à travers des initiatives qu'ils vont pouvoir prendre et mener de A à Z. Et donc depuis 5 ans, on s'est donné la mission avec Vincent, Eric et avec aussi nos investisseurs, voilà, de rendre les collaborateurs acteurs de leur entreprise à travers des initiatives qu'ils vont porter et réaliser à travers un petit budget que va leur allouer leur entreprise, entre 10 et 50 euros par mois. Et à travers, avec ce budget, les salariés vont pouvoir soit proposer des initiatives, dire bah voilà, moi j'ai besoin de 2000 euros pour mener un atelier fresque du climat. Je vais publier cette initiative sur la plateforme Team Starter et là, l'ensemble de mes collègues, donc 100, 200, 800, 3000 salariés vont pouvoir cofinancer mon projet. Et tant que j'ai pas atteint 100% des fonds, il se passe rien. Mais par contre, à partir du moment où j'ai récolté les 2000 euros dont j'ai besoin pour mener mon projet, donc là, par exemple, je sais pas, j'ai convaincu 400 personnes, 400 collègues, j'ai trouvé deux collègues qui veulent faire le projet avec moi et j'ai le budget nécessaire, je vais pouvoir passer à l'action et mettre en place ces initiatives dans l'entreprise. Et donc, c'est comme ça que Team Starter a créé des merveilleuses histoires chez une centaine de clients à travers des collaborateurs qui ont pu être acteurs et mener des initiatives de A à Z grâce à une confiance et une autonomie qui est donnée par l'entreprise pour voilà, créer un vécu commun au sein des entreprises et des initiatives qui sont réalisées par les salariés.
Il y a un chiffre assez impressionnant que vous donnez sur votre site. Alors, je crois de mémoire que c'est 75% des salariés qui privilégient l'impact et le sens au salaire.
Alors oui, en fait, aujourd'hui, on est dans une génération qui a plus du tout les mêmes attentes qu'il y a plusieurs années. Avant, on regardait effectivement beaucoup le salaire, la carrière, le poste. Aujourd'hui, ça a été un petit peu effacé, notamment avec le Covid qui a fait qu'accélérer cette mouvance-là. Et en fait, les collaborateurs sont d'autant plus à la recherche de sens, d'impact, capacité effectivement aussi d'action, les conditions de travail, le télétravail, le management. Et donc, tous ces critères qui arrivaient en second plan il y a quelques années arrivent maintenant en premier plan Et dans le marché de l'emploi, il y a de plus en plus de collaborateurs qui ne vont pas regarder le salaire, mais qui vont regarder ce qui entoure le salaire, quelle est l'expérience que le collaborateur va pouvoir vivre au sein de son entreprise. Et d'ailleurs, Team Starter, on va venir proposer justement une expérience différente à travers des projets qu'ils vont pouvoir réaliser. Mais effectivement, les attentes, et je pense que le Covid a fait que renforcer ça, même si le salaire reste un élément qui est important pour les collaborateurs, c'est juste que ça ne devient plus le seul et qu'il y a d'autres éléments qui vont venir entourer, qui peuvent venir plus importants même.
Alors, en préparant cette émission, je me souvenais qu'il y a quelques années, dans la Silicon Valley et par ricochet dans le Silicon Sentier où nous sommes, tous les pitchs commençaient par « je veux changer le monde ». Vous, quand en 2019, vous vous êtes dit « on va créer Team Starter », c'est parce que vous aviez vécu ces freins à l'engagement dans l'entreprise ?
Ouais, alors moi en fait, je suis passée rapidement par un grand groupe et j'ai été confrontée, j'étais tout en bas de l'échelle, en stage, et j'avais une idée de projet pour le coup.
Tu peux nous en parler de ce projet ?
C'était assez simple, c'était d'uniformiser toutes les présentations commerciales du groupe, parce qu'à chaque fois qu'on faisait des propositions et des appels d'offres, c'était pas du tout les mêmes, et donc en fait passer par un logiciel qui fait des templates assez simples pour qu'on ait tous le même wording et le même design et que ça soit bien présenté. Donc, un projet assez simple. Et quand on m'a parlé d'à qui je devais en parler pour que ça soit déployé, le temps que ça allait mettre, enfin, j'étais déjà partie avant même d'avoir pu initier le truc. Ouais. Et je me suis dit, il y a tellement de barrières pour qu'aujourd'hui, les collaborateurs puissent vraiment prendre des initiatives, même du quotidien, qui sont hyper simples, que nous, on va venir éliminer toutes ces barrières. C'est-à-dire qu'on va leur donner un budget à travers le collectif. On va leur donner cette capacité d'action très rapide, puisqu'en un clic, le collaborateur peut créer une initiative. On va supprimer tous les leviers hiérarchiques qu'il peut y avoir et on va leur donner beaucoup plus de pouvoir pour leur montrer qu'eux aussi, à leur échelle, ils peuvent changer les choses. Et c'est comme ça que ça a créé. On travaille par exemple avec des banques, des conseillers bancaires ont pu réaliser des superbes initiatives parce qu'au quotidien, ils voient des clients et donc au quotidien, ils peuvent avoir des superbes idées, mais le temps de la remonter où ils n'osent pas, ils sont dans l'autocensure, ils ne savent pas comment faire, bah, l'idée, elle n'est jamais mise en place et c'est dommage parce que des bonnes idées, c'est ce qui peut faire la différence dans une entreprise.
Et donc concrètement, c'est une plateforme.
Ouais.
Interne de crowdfunding.
Exactement.
Donc, les salariés, quand l'entreprise a souscrit à Team Starter, ont accès à cette plateforme.
Exactement. Avec un budget mensuel.
Avec un budget mensuel par
moi.
Personne. Bon, et bah par moi.
Par moi, ouais, enfin,
mythologique. Et ils postent. Moi, j'ai un projet.
Voilà. Donc, en fait, tous les mois, tu vas avoir 20 euros. Toi, Solène, il y a un cadre qui est donné par l'entreprise qui souhaite agir en fonction de son projet d'entreprise sur la RSE, sur la qualité de vie au travail, sur l'innovation. Enfin, voilà, il y a des thématiques qui vont être données pour finalement inspirer les collaborateurs. Et toi, Solène, tu dis, bah, moi, j'ai telle idée que j'ai envie de déployer dans mon entreprise. Et donc, tu vas venir la raconter sur Team Starter, définir un budget, des critères de réussite, pourquoi ce projet-là, tout le storytelling. Donc, tu vas vraiment travailler ton initiative. Qui va être publié ou non, il y a une modération quand même pour s'assurer que ça rentre dans le cadre justement qu'a fixé la direction générale. Et à partir du moment où c'est validé, tu vas devoir aller convaincre tes collègues. Et donc, 50, 100, 200, tu vas y aller à fond, donner envie aux gens de venir financer ton initiative ou collaborer parce que tu as besoin d'une compétence différente, tu n'es pas bonne en communication. Je prends vraiment le mauvais exemple. Et donc, du coup, tu vas t'associer avec une personne de l'équipe de la communication. Ce qui a aussi comme objectif de casser les silos et de rapprocher les salariés qui ne se connaissent pas, mais qui pourtant ont des choses à partager ensemble et sont dans une entreprise commune. Et donc, à partir du moment où tu atteins les fonds, tu as trouvé les fonds nécessaires à travers tes collègues, donc tu as aussi une adhésion collective. Tu as 100, 200, parfois il y a des projets qui ont réuni plus de 1000 personnes, donc tu as 1000 collègues qui sont derrière toi. C'est aussi ça qui va te pousser à aller jusqu'au bout, d'aller créer ton initiative.
Oui, parce que tu as commencé maintenant.
Parce que tu as commencé. Parce qu'il y a en fait beaucoup de projets qui sont morts-nés en entreprise parce que tu commences et tu finis pas. Ouais. Sauf que là, tu commences et tu finis. Pourquoi ? Parce que tu as tes 800 compères à côté derrière qui vont demander des nouvelles, qui ont financer ton projet et pas celui d'un autre et qui vont vouloir le suivre. Et puis aussi parce que l'entreprise laisse le choix des possibles et donc tu vas aller sur un sujet qui tient à cœur et donc tu vas vouloir aller le déployer de A à Z. Et après, ce qu'on crée vraiment, c'est vraiment ce sentiment de fierté de se dire, bah ouais, moi aussi à mon échelle, j'ai pu avoir de l'impact dans mon entreprise, j'ai pu agir et donc je vais vouloir le dire au monde entier à travers ces initiatives que je vais proposer moi-même.
Et quand on a posté son projet, et là, on veut aller avoir ses fonds, on rentre dans une véritable campagne pour aller les chercher. Vous les aidez
pour ça c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment des collaborateurs, en tout cas quand j'y étais.
Il y en a qui se retrouvent comme ils étaient au BDE.
Exactement, et qui, par exemple, vont changer les écrans Teams de leur écran, comme ça, ils ont leur projet Team Starter, comme ça, quand ils font des visios entre collègues, ils promouvent, ils vont mettre des affiches, ils vont aller contacter les petits malins qui vont voir un tel, il a son budget plein, je vais lui envoyer un petit message. massage. Enfin, il y a vraiment tout un travail qui est fait. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'ai créé Team Starter. L'entrepreneuriat d'entreprise, c'est aujourd'hui très compliqué. Tout le monde peut pas être un entrepreneur. Et tout le monde ne veut pas l'être. En revanche, tout le monde peut avoir des bonnes idées. Donc, cherche à développer avec Team Starter, c'est développer ces mécaniques de l'entrepreneuriat, comment créer un projet, comment le budgétiser, comment le storyteller, comment donner envie, comment communiquer, embarquer, et puis le mettre en place, mais sur ces petites initiatives du quotidien qui peuvent faire la différence, qui donnent envie aux collaborateurs de se mener à travers ces projets qui sont simples et qui vont venir respecter un peu tous les cadres de l'entrepreneuriat, comme quand moi j'ai levé des fonds, j'ai dû convaincre des investisseurs, et ben là quand je suis en levée de fonds sur un projet Team Starter, je vais convaincre des collègues et leur donner envie de financer mon initiative.
Vous vous êtes inspiré de projets similaires dans d'autres pays ?
Alors, IBM, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ce modèle par eux-mêmes parce que la prise d'initiative en entreprise n'est pas existante. Et quand tu parles aux dirigeants français, ils vont tous te dire qu'ils ont besoin de plus de prise d'initiative, plus de collecteurs-acteurs, plus de bottom-up, d'intelligence collective. Ça, c'est, donc, en fait, il y a eu beaucoup de boîtes à idées qui ont été créées il y a maintenant, je dirais, 4-5 ans. Ça a été superbe parce que ça a vraiment montré que voilà, les collaborateurs, ils ont des idées en entreprise. En revanche, j'ai parlé à énormément de dirigeants qui m'ont dit que c'était énormément déceptif parce que tu avais, je sais pas, 3000 idées qui sont sorties, puis tu n'en as aucune qui a été réalisée. Ou une ou deux. Donc, très, très peu de projets qui sont réalisés. Et ça, c'est ultra frustrant parce que tu vas demander aux collaborateurs qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Et en fait, il va rien se passer. Donc, tu vas créer plutôt l'effet inverse. Donc, ces boîtes à idées, elles ont un petit peu évangélisé le marché pour nous. Et nous, on arrive avec tout un concept où c'est que l'idée se réalise. Et donc, ce qu'on propose à nos clients, c'est que la majorité des projets proposés par les salariés se concrétisent vraiment, aillent jusqu'au bout. Parce que si ça ne va pas jusqu'au bout, ça n'a aucun sens. Ce que tu vas créer quand tu fais de la prise d'initiative, c'est quand une prise d'initiative se réalise. Tu vas avoir des effets de levier qui vont être incroyables. Si l'initiative, elle ne se réalise pas, tu vas avoir aucun effet de levier. Donc, il y avait tout ce qui est boîte à idées, sauf qu'on s'est rendu compte que les idées ne se concrétisaient pas. Donc, on a mis en place un ensemble d'éléments pour s'assurer que chez nous, les projets se concrétisent. Et puis, des modèles aux US ou par exemple IBM qui ont mené ça en interne. Et voilà, et ça a été testé au tout début chez Matters, qui est un product studio cofondé par Eric Raffin, parce que lui trouvait chez lui qu'il y avait peu d'initiatives. Et donc, c'est comme ça que l'idée est née, après, avec ma rencontre et avec Vincent qui était chez Matters.
Les principales objections que tu as eues lorsque tu as allé démarcher les premiers clients ?
Alors déjà, au tout début, les principales objections, je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous. C'est quand même...
Parce que ton interlocuteur, c'était qui ? Les CEO, alors, les DRH ?
Au tout début, je me suis dit, c'est quand même un sujet de DRH parce que tu vas venir chercher les sujets d'engagement, de empowerment, de marque employeur aussi. Et les premiers mois, j'ai mis énormément de temps et contacté les DRH. Elles étaient dispo 2 ans après. Moi, j'étais à l'époque autofinancée, bootstrappée, donc j'avais pas d'argent sur mon compte en banque. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible d'attendre 1 an et demi pour rencontrer une DRH. Donc, je me suis dit, on va arrêter là, on va changer de cible. Et donc, je me suis mise à adresser les dirigeants d'entreprise. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, c'est le plus haut possible. Donc, si j'arrive pas à signer par cette voie-là, ça veut dire que j'ai pas de marché. Donc, je m'en rappelle, la première personne, Nicolas Bourrit de Bouygues, je t'embrasse Nicolas, j'ai passé un coup de fil, ce qu'on appelle dans le jargon sales, un call, que je connaissais pas. Et voilà, j'ai voulu le rencontrer pour lui présenter ce qu'on faisait. Et quelques semaines après, le contrat a été signé. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'à la fois, c'était une cible ultra accessible. C'est finalement une cible qui est peu démarché, etc. Donc voilà, une cible aussi qui, moi, intellectuellement, m'intéresse parce que des parcours qui peuvent être très différents, etc. Une cible qui a le budget. C'est tout bête, mais j'ai accéléré mon cycle de vente à quelques mois, alors que ça pouvait être plusieurs années, même quand il s'agit de grands groupes. Et ça a servi énormément aussi dans l'utilisation de mon outil, parce qu'en fait, comme c'était un outil qui était choisi par le dirigeant, dans l'utilisation, c'était des messages forts qui étaient envoyés aux collaborateurs, et donc elle était beaucoup plus forte parce que c'était pas un outil qui était cantonné à un sujet RH, mais plutôt un outil transfo de manière globale. Et donc ça m'a vachement ouvert les portes d'adresser cette cible. On a bien sûr maintenant les DRH qui sont dans notre process, mais avec le dirigeant qui est tout le temps embarqué, et donc avec un closing avec cette cible-là.
Les projets les plus emblématiques que vous avez portés ?
Alors c'est les entreprises qui ont porté
grâce à Team Starter
ces projets. Il y en a eu des milliers, il y en a toutes les semaines des centaines qui se réalisent. Donc c'est
ceux
assez...
qui t'ont marqué, toi.
Ouais, wow, moi, ceux qui m'ont marqué, c'était pendant le Covid, c'est le Crédit Mutuel Sud-Ouest. C'est une collaboratrice qui a sa petite fille qui est handicapée et qui a décidé de mener une énorme campagne au sein du Crédit Mutuel Sud-Ouest où chaque pas réalisé, donc chaque kilomètre, pardon, que ce soit en vélo, en marche ou en course, permettrait de récolter de l'argent pour acheter une joualette, donc qui est du matériel handicapé, pour permettre à sa petite fille de faire le Mont Blanc. Et donc, c'est un projet qui a eu un engouement impressionnant auprès de l'ensemble des collaborateurs, des gens qui se connaissaient pas, qui connaissaient pas cette collaboratrice, des milliers de kilomètres qui ont été parcourus pendant le Covid où tout le monde était éloigné, se sentait hyper loin de sa boîte. Donc ça a créé énormément d'engouement. Les gens s'envoyaient des photos, esprit de solidaire assez incroyable. Ils ont récolté les fonds et surtout après le témoignage du collaborateur qui a pu faire cette ascension. Et voilà, ça a créé, je trouve que c'est une très belle histoire aussi. Il y a d'autres collaborateurs qui sont réunis dans un studio pour enregistrer un CD. Le CD permettait la revente du CD auprès des proches, des collaborateurs et des clients de financer le Téléthon. Et donc, j'ai trouvé ça assez génial qu'une quinzaine de collaborateurs avec des talents artistiques différents et plus ou moins chevronnés se sont réunis, ont mis en place un CD et puis l'ont vendu. Après, c'est toute la boîte qui s'y est mise aux clients, aux collaborateurs pour permettre de récolter des fonds pour le Téléthon. Et ça, je trouve ça assez formidable que des collaborateurs se disent « Ok, je vais y aller pour ma boîte, je vais faire ça. » Et c'est un peu ce que veut n'importe quel dirigeant d'entreprise, que des collaborateurs se révèlent et se donnent à fond pour l'entreprise. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus à vouloir éloigner l'équilibre vie pro, vie perso. Sauf qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont de plus en plus épanouis que dans le perso. Et moi, je pense que c'est très, très dangereux, qu'il faut absolument remettre moi, ce que j'appelle un peu du kiff aux collaborateurs dans le pro pour leur permettre aussi d'avoir de l'épanouissement, parce que sinon, il va y avoir une trop grande fracture qui fait que le bonheur, je le prends dans mon perso, mais le pro, c'est quand même 5 jours sur 7 et c'est la majorité du temps.
Compliqué de faire une frontière complètement hermétique entre les deux.
Ouais, en plus.
C'est ce que tu racontais sur les deux exemples que tu donnais de projets qui ont pu être réalisés avec Team Starter. Ça m'a fait penser à ce que fait Litchi, mais d'un point de vue peut-être perso. Est-ce que vous avez été comparé à Litchi, justement, sur certains aspects ?
On a été comparé dans le sens Kickstarter égale Team Starter, ouais. Dans le sens, c'est une campagne de crowdfunding qui est externe. Et nous, en fait, on a repris le concept
en interne,
avec l'argent de l'entreprise qui est confié aux collaborateurs. Donc, Litchi, Kickstarter, etc. nous en parlent, effectivement, puisque c'est le concept qui est en externe, mais nous comprend en interne et sur des projets internes.
Aujourd'hui, comment la marque Team Starter s'engage sur ce que moi j'appelle son territoire de marque, c'est-à-dire votre territoire de marque, il se résume pas à juste la plateforme et votre produit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous défendez avec Team Starter ?
Alors, faudrait maintenant demander au nouveau CEO de Team Starter, mais en tout cas, ce que j'ai voulu défendre pendant des années avec Team Starter, c'est que peu importe qui t'es dans une entreprise, moi j'ai cette conviction que tu sois chef de chantier, ouvrier, on a des femmes de ménage qui ont par exemple porté des super projets. Je pense que ces personnes-là et n'importe qui dans des entreprises veulent de plus en plus avoir de poids. Et je pense qu'elles doivent et qu'il y a une énorme transformation qui est en train de se passer du côté des entreprises. Et cette transformation, elle passe par l'homme, par l'humain en fait. L'humain, ça va être la plus grande force des entreprises de demain. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a très très peu de boîtes qui font. Il y a beaucoup qui parlent, mais il y en a très peu qui font réellement des choses dans ce sens-là. Et je pense que c'est celles qui font aujourd'hui qui sont celles qui vont survivre, parce que toutes ces transformations qu'il va y avoir, en plus il y a tout ce qui est IA qui arrive, elle va devoir absolument passer par les humains et la clé se trouve chez les collaborateurs qui au quotidien sont en contact avec les clients.
T'en as parlé rapidement, vous avez bootstrappé pendant 4 ans. Alors, dans le jargon, ça veut dire que vous n'avez pas levé de fonds.
Ouais.
Vous êtes autofinancé. Et après, vous avez fait une levée de fonds en 2022.
Ouais, c'est ça.
7 millions d'euros.
Ouais.
Et c'était important pour toi, dans une première phase, de ne pas aller lever de fonds. Enfin, pourquoi cette stratégie ?
Ouais, alors moi, c'est très, très important. Je tiens les valeurs du bootstrap très fortes. J'étais au tout début du club bootstrap, dont c'est comme ça que j'ai rencontré Wilfried, typiquement, énormément d'admiration pour ce qu'il a fait avec Superprof, mener de zéro à plus de 40 millions de CA en étant complètement autofinancé. En fait, moi, je trouve ça hyper important. Aujourd'hui, un jeune, quand il sort d'une école de commerce, il va se dire une start-up, c'est égal levée de fonds. Et je trouve ça ultra dangereux parce qu'une levée de fonds n'est pas du tout une réussite en soi, n'est pas une fin en soi. Et on le voit, le nombre de boîtes qui se sont plantées, qui ont pourtant levé des fonds. Et moi, je trouve que c'est un message qui est vraiment pas du tout positif et que je pense qu'il peut avoir d'autres formes d'entrepreneuriat où tu te développes peut-être un peu moins vite, peut-être d'une manière différente, mais sans lever de fonds. Mais par contre, je pense que tu vas beaucoup plus loin. Et donc, les premières années avec Team Starter, en fait, moi, j'étais au tout début de l'aventure de Lydia. J'étais une des toutes premières employées avec Cyril et Antoine. Je trouve que c'est une merveilleuse aventure, mais vraiment portée sur on lève. Et moi, en fait, je voulais trouver notre business model nous-mêmes, que ça soit nos clients qui payent nos collaborateurs, que notre croissance soit saine, en fait, qu'on se développe petit à petit, que cette croissance, elle soit contrôlée et surtout connaître et savoir notre business model.
D'ailleurs, petite parenthèse, le business model, c'est un...
Un abonnement mensuel.
Par collaborateur.
Par collaborateur, que les entreprises payent pour pouvoir utiliser la démarche pour permettre... voilà, d'utiliser la plateforme. Donc, pour moi, c'était ultra important que les premiers euros de CA, le premier million d'euros, le deuxième million d'euros soient générés par notre business model et non par la conviction que peut avoir un entrepreneur à convaincre un fonds que sa boîte, c'est la future licorne française. Donc voilà, et l'esprit Bootstrap nous a amené énormément de choses, frugal, plein de dépenses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait fait sûrement si on avait levé de fonds, mais on s'est dit c'est inutile, on se focus. Il y a plein d'autres défauts, mais je pense que ça nous a apporté énormément de choses.
Et donc après, vous avez levé 7 millions d'euros.
Ouais.
Parce que là, vous vous êtes dit, il faut qu'on accélère, il faut qu'on aille chercher des fonds.
Ouais, en fait, c'était surtout de se dire que l'autofinancement, à un moment donné, ça va venir bloquer. C'est-à-dire que soit, quand on va gagner un nouveau client, on finance, on va dire, la croissance, c'est-à-dire un commercial, soit l'innovation, c'est-à-dire un développeur. Et à force, avec toujours ce choix, on s'est dit, il est temps pour nous d'accélérer. Et donc, effectivement, on a levé des fonds. On était rentable, on faisait du chiffre d'affaires. On était à peu près un peu moins de 50 collaborateurs. Et donc, on a levé des fonds en 2022. Voilà.
Et je crois qu'à ce moment-là, tu étais enceinte.
Ouais. Ouais, ça a été extrêmement compliqué. Déjà, une levée de fonds, c'est compliqué dans le sens où ton business doit être maintenu, il faut que tu fasses des bons chiffres, etc. Donc, j'avais une boîte à piloter et m'assurer que cette boîte soit en croissance, tous les meetings avec les investisseurs. Et effectivement, j'ai appris quelques semaines après le début de ma levée de fonds que j'étais enceinte. Voilà, je mettais en pause à chaque fois mes meetings pour pouvoir aller vomir à côté. Donc, ça a été méga sportif et on a clôturé notre levée de fonds en juillet et j'ai accouché quelques semaines après.
Ah oui, donc en fait, t'as fait toute ta grossesse en levée de fonds.
Ouais, quasi. Je l'ai pris 3 mois. Ouais, c'est quasi ouais. Toute ma grossesse enceinte. Ouais.
Et est-ce que tu as eu cette peur qu'ont aussi beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont en levée de fonds et enceintes, parce que ça arrive assez souvent, de dire, est-ce que je dois le dire ou pas, mes futurs invests?
Alors, c'est un gros problème aujourd'hui, parce que beaucoup m'ont conseillé de ne pas le dire. Ils m'ont dit, en gros, si tu le dis, tu ne vas pas lever de fonds. Et t'es là, et puis moi, à côté, j'avais un de mes meilleurs amis qui levait et qui allait devenir papa, et pour lui, c'était félicitations, bravo, etc. Et moi, j'ai décidé de dire, en fait, il n'y a aucune raison d'en parler effectivement à mes investisseurs. Après, j'avais choisi des investisseurs, je pense que c'est ça aussi, qui étaient ouverts sur ces sujets-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a encore beaucoup, beaucoup de tabous. Une femme qui est enceinte, moi, clairement, si je n'avais pas encore initié ma démarche de levée de fonds, je pense que je l'aurais décalée. Parce qu'on te dit, si t'es enceinte, c'est mort, tu vas pas lever, parce que les investisseurs, ils vont investir sur toi et ils vont dire, tu vas en avoir un premier, un deuxième, un troisième, tu vas être moins investi, alors que c'est totalement faux. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, et j'étais très étonnée, 95% des gens du secteur m'ont dit, ne le dis pas.
Et au final, tu l'as dit, toi?
Oui.
Ou pas? Oui. Puis, de toute façon, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire...
À un moment donné... Non, en fait, j'en ai fait un non-sujet. Ouais. Vraiment, je me suis dit, je suis enceinte. Donc, au tout début, je ne pouvais pas le dire, parce que forcément, je ne le savais pas. Ouais. Ça, voilà, je l'ai appris tard aussi. Et puis après, je l'ai dit assez facilement, et très très bonne réaction. Il n'y a pas eu de sujet du côté de mes investisseurs. Et heureusement, heureusement.
Et toi, ton conseil, si pour des entrepreneurs qui seraient dans cette phase-là, ça serait plutôt de le dire ?
Bien sûr. De le dire et de l'assumer, en fait, il n'y a pas de raison. Et que si malheureusement des personnes déclinent, bah, vaut mieux le savoir maintenant que quelques mois plus tard où tu t'es un pépin et que tu te rends compte que tu t'es marié aux mauvaises personnes, quoi. Donc, ouais, il faut le dire. Et de toute façon, il faut que les choses, elles bougent là-dessus. Et pour qu'elles bougent, il faut que les gens y parlent et que les femmes, elles se disent, OK, oui, bah, je suis enceinte, ça va le faire, quoi.
T'as échangé avec d'autres entrepreneurs sur ce sujet-là ?
Oui, c'est aujourd'hui, c'est très, très compliqué d'être une femme et d'être entrepreneuse, mais surtout d'être une maman entrepreneuse. Moi, j'ai une de mes super copines qui a des jumelles et qui a une start-up. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. On a la charge mentale. On est perçu pas dans un travail comme un travail. Donc, en fait, la crèche, quand ton enfant il est malade, c'est toi qui vas appeler parce qu'en fait, finalement, toi, t'es entrepreneur, donc tu travailles pas vraiment. Et puis, ton mari, il travaille dans la banque et donc, c'est un vrai travail pour eux. Et donc tu as des gros problèmes de charge mentale, d'équilibre. Et voilà. Et en fait, le jour où tu arrives à trouver ton bon équilibre vie pro-vie perso, c'est le jour où tu seras le meilleur ou la meilleure entrepreneur, entrepreneuse.
T'en as parlé rapidement juste avant de monter Team Starter. T'avais une autre expérience d'entrepreneuriat.
Ouais.
Et puis après, t'as été la première salariée de Lydia. J'ai une petite question pour toi à ce sujet.
Vous avez un message.
Bonjour Ségolène. Avant tout, je voulais te féliciter pour ton parcours super riche. Parce que tu en es à ta deuxième boîte, mais tu as été aussi salariée pour... une très belle scale-up qu'est Lydia et un poste de dirigeant. Tu as été aussi côté leveur de fonds, donc vraiment, voilà, sur tous les fronts. J'ai deux questions pour toi. La première, qu'est-ce qui t'a donné envie après Lydia de remonter une boîte ? Et la deuxième, qu'est-ce que tu as mis comme ingrédient dans ton rôle actuel que tu as pioché dans tes expériences précédentes, à la fois entrepreneuriales, mais aussi salariées ? Merci beaucoup.
Alors, c'est une question de Olivia Hervy, qui est Chief Startup et VC Ecosystem Officer au sein de Vivatech, qui est un de nos partenaires sur ce format.
En fait, Lydia, j'ai contacté Cyril et Antoine au tout début de l'aventure. Je trouvais cette application tout simplement géniale.
Tu les connaissais par ailleurs ?
Non. J'ai envoyé un mail à Cyril le 31 décembre après avoir fait un Lydia. C'est génial ce que tu fais. J'ai envie d'investir. Bon, il s'avère que c'était au tout début de l'aventure, etc. Et puis Cyril m'a dit non, mais tu vas pas pouvoir investir. Enfin, moi, en plus, je voulais investir 5000 euros. J'ai pas beaucoup d'argent. J'avais 23 ans à l'époque. Et donc, il m'a dit tu vas plutôt venir travailler. Moi, j'étais à côté dans mes études. Je me faisais chier à Dauphine en finance. C'est clairement, voilà. Et donc, j'ai bossé pendant un an au tout début de l'aventure avec Cyril et Antoine. J'ai tout passé au rattrapage, mes études en gros.
Et mais t'avais une super formation à côté.
Et j'avais une super formation,
en bossant pour Lydia.
Voilà. Mais j'avais une meilleure formation. D'ailleurs, à l'époque, le monde des startups n'était pas connu et tous mes potes me disaient mais qu'est-ce que tu vas foutre, Lydia ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, startup ? T'es une malade ? Qu'est-ce que tu fais ? Ils voulaient pas me passer les cours là.
Fiches.
Les fameuses fiches. Enfin, vraiment, j'étais la paria de Dauphine vraiment à l'époque. Moi, je trouve que la meilleure expérience, c'est le concret. En France, on t'apprend de la comptabilité à 17 ans alors que tu n'as jamais été dans une boîte. Enfin, je veux dire, si je retournais aujourd'hui à Dauphine, j'écouterais, quoi. Parce que j'ai maintenant une expérience de la vie professionnelle. Je dévie un peu de la question, ceci étant dit, pourquoi et moi, en fait, j'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat. J'ai toujours su. Et je pense que Lydia, la frénésie qu'il y avait, je suppose, toujours au début, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour Cyril, mais j'étais beaucoup plus proche dans mon quotidien, parce que j'étais plutôt sur la partie sales qu'Antoine. Mais même Antoine, c'est un CTO qui a une vision assez incroyable. Et je me suis dit, je veux être comme eux, quoi. Je veux avoir cette frénésie des journées, la patate, ça bouge. Juste avant, j'avais fait un stage, j'avais proposé une idée. Il m'avait dit, on en reparle dans 3 ans. Je suis restée 3 semaines dans cette grosse boîte. Et Lydia, j'étais tellement... Enfin, c'était la folie, ça va vite. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin que ça aille vite, vite tester, vite se prendre des bâches, vite aller dans l'échec, plus voilà. Et donc assez rapidement, j'ai monté une première boîte avec Denis Fayol, qui est un entrepreneur que j'admire énormément, qui est le fondateur de La Fourchette, et qui a monté plein d'autres boîtes, dont Mano Mano, Singulart, etc. Et
on
a
monté... Samantha Jeruzalemi a cité comme le plus féministe des Exactement, entrepreneurs.
Exactement, il monte une boîte par an, il en a monté 18, et à chaque fois avec une nana. Et donc, on a monté une première boîte ensemble là-dessus. Et c'est vrai que...
C'était quoi, cette boîte?
C'était dans le secteur de l'aide à domicile pour personnes âgées. L'idée, c'était d'avoir une application pour les proches des personnes âgées, pour tout savoir ce qui se passait en temps réel, à quelle heure l'auxiliaire de vie est arrivé, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce que le frigo est rempli, comment sent aujourd'hui ma grand-mère, etc. Et puis une application pour les auxiliaires de vie qui renseignait tout en temps réel, qui avait en fait leur carnet de santé qui était digitalisé. Et donc, c'était tout simplement un service d'aide à domicile en utilisant un peu la tech pour pouvoir améliorer la communication entre les différents interlocuteurs. Voilà. Et ça a été une superbe aventure. Et voilà. Et donc, j'ai énormément appris. Et donc, pour répondre à la deuxième question, je pense que ce que j'ai vraiment appris de toutes mes expériences, c'est la persévérance. C'est-à-dire que je me suis pris tellement, tellement de bâches. Je me rappelle, chez Lydia, au tout début, je devais convaincre des boulangers d'utiliser un iPad pour encaisser leurs baguettes, etc. Enfin, c'est le truc, si tu veux. C'était ultra compliqué. Mais bon, je me n'aimais pas. Je faisais tout Paris. J'allais voir les boulangers. Enfin, j'y allais à fond. Et vraiment, je me suis dit, putain, si j'arrive à vendre un service de paiement à des boulangers mobiles, avec iPad, etc., en fait, tout est possible. Donc, j'ai vachement... garder cette culture sales commerciale que j'ai, c'est-à-dire j'ai toujours fait du commercial, et je me suis dit, moi je vais être une CEO qui va être opérationnelle, c'est-à-dire qui au quotidien va aller voir les clients, va faire du cold call, donc
qui met les mains dans le cambouis.
Et donc par exemple jusque quasi à la fin de Team Starter, j'ai toujours cold call, et donc avec mes équipes appelé les dirigeants pour leur donner envie de me rencontrer, organiser un rendez-vous, et j'ai toujours eu cette niaque et ce côté commercial que je trouve ultra important, que j'ai maintenu dans mes différentes expériences, et CEO ou pas, j'étais aussi sales chez Team Starter. Et donc, c'est quelque chose que j'ai mis en place.
Finalement, le CEO est souvent le premier sales de sa boîte.
Et s'il ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème.
Ouais. Et en même temps, c'est une belle forme d'engagement par rapport aux collaborateurs.
C'est une belle forme d'engagement, mais je pense que c'est vrai que les équipes aimaient beaucoup faire du call-call avec moi, etc. Et puis, en fait, moi, j'apprends plein de choses. Donc, tu peux adapter ton offre, tu peux adapter ton discours, tes méthodes, tes process. Donc, tu peux amener la boîte encore plus loin. Par contre, attention, parce que le problème, c'est qu'une vente menée par une CEO n'est pas la même qu'une vente menée par une commerciale. Moi, j'avais chez moi les meilleurs commerciaux, enfin, vraiment des très, très bons commerciaux. Et parfois, je comprenais pas, fais comme moi. Mais en fait, non, c'est pas possible. Et donc, il faut faire attention quand tu vas, en tant que CEO, développer ton portefeuille client, penser bien comment ça peut être scalabilisé au niveau des équipes. Et donc, si j'en recrute 1, 2, 3, 4, 5, 6 commerciaux, ils vont pouvoir utiliser ma méthode et aller adapter à cette typologie de collaborateurs qui sont des commerciaux et pas des CEO de boîte, quoi.
Tu parlais donc, comme ingrédient de ce que tu as retenu de tes précédentes expériences, l'ingrédient persévérance.
Ouais.
L'autre jour, j'ai reçu à ce micro Isabelle Rabier, et il y a Alix Poulet, qui est entrepreneur et anciennement DG de Litchi, qui lui demandait quelle différence tu fais entre la persévérance et l'entêtement.
C'est une très très bonne question. Je pense que l'entêtement, tu vois pas les signes qu'il est temps d'arrêter. C'est-à-dire que la persévérance, tu persévères et les signaux sont bons, donc tu continues de persévérer. Ça, c'est que ma vision. L'entêtement, c'est que tu vois des signaux qui sont négatifs, tu vois que t'es pas sur la bonne, mais tu décides pas à écouter, tu y vas quand même. Et moi, d'ailleurs, les derniers mois de Team Starter, j'ai été très entêtée et j'aurais dû arrêter avant.
Mais t'étais dans le flow et tu voulais
continuer. J'étais dans le flow, je voulais continuer, commencer à arrêter, mais ça m'aurait été possible avec le potentiel que je connais qu'à Team Starter, ça a été très compliqué, ouais.
Il y a un sujet qui est très lié finalement à ce sujet de l'entêtement, et qui est encore très tabou pour les entrepreneurs, mais pas que, mais aussi pour les entrepreneurs, c'est celui du burn-out. Et toi, tu as fait un burn-out?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai malheureusement accouché avec un petit bébé qui a eu des soucis de santé, où il a malheureusement failli mourir. Donc ça a été un congé maternité très très compliqué. Très très compliqué parce que je devais absolument déconnecter, j'étais à Necker avec mon fils et j'avais pas le choix. Et donc en fait quand j'ai repris en janvier, j'avais laissé un peu de moi à l'hôpital quoi. Et donc il fallait aller vite, on venait de lever des fonds, c'était un nouveau dynamisme. Jusqu'à maintenant on était dans l'autofinancement. Et en fait, j'ai fait un gros burn-out que j'ai décidé de pas écouter. Et puis, c'est très tabou, le burn-out, c'est pas vraiment une maladie, etc. Donc, moi, j'étais avec mes médecins, et qu'est-ce que vous me parlez de burn-out ? Il suffit que je dorme 2 jours. Donc, je me rappelle, j'avais fait une semaine pause en me disant, bah voilà, ça sera réglé. Et en fait, ce burn-out m'a impacté très fortement physiquement. On sait toujours pas si c'est le burn-out qui m'a causé des problèmes physiques ou si c'est mes problèmes physiques qui ont causé le burn-out, mais c'est plutôt l'inverse. Et donc, physiquement, mon corps a été impacté. Et donc, j'ai commencé à chuter. Avoir des grosses crises de malaise et de vomissements où je perdais connaissance, où pendant des jours et des jours je pouvais pas sortir de mon lit, où je vomissais, et donc j'ai eu des gros soucis de santé. Et aujourd'hui, quand j'ai pris la décision d'arrêter, pourquoi je dis que je me suis entêtée, c'est parce que j'ai décidé en juin. Donc j'ai mis 6 mois à être malade, et c'est d'ailleurs pas moi qui ai décidé, c'est mes médecins qui m'ont dit à la fin, écoute, ça suffit parce que là tu vas te cramer et attention. J'aurais dû, en fait, dès qu'on me dit ça, me dire « Ok, je step down ». Et en fait, je me suis entêtée, je me suis pas écoutée. Et en fait, les équipes l'ont vu. J'étais un légume au bureau. Je venais une fois… Enfin, ça a été très, 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 très compliqué. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de me dire « Ok, t'arrêtes ». Et donc, en juin, j'ai pris la décision de me dire « Ça suffit, tu vas prendre du temps pour toi. Et surtout, tu vas pas embarquer tout le monde dans ton naufrage ». Parce que forcément, on est une petite boîte, 60 personnes, la CEO est forcément importante, elle est moins en moins là, les équipes commencent à se poser des questions, et donc assez vite, on s'est accordé avec les investisseurs en disant on va trouver une nouvelle perle rare qui va mener la prochaine étape de Team Starter, et moi je vais rester advisor, lui vendre une partie de mes parts, mais je vais me reposer. Et donc assez vite, on a eu la chance aussi de tomber sur un super gars qui avait monté une boîte dans le secteur, qui venait de la revendre, donc...
Alignement
de planète de malade, surtout que j'avais pas 10 mois devant moi, donc c'est ça qui était compliqué. Et après quelques mois, on a signé effectivement, et donc en janvier, Quentin Guilly, l'ancien fondateur d'Anjaro, donc un entrepreneur en plus, a repris les rênes officiellement de Team Starter et donc est donc le nouveau CEO de Team Starter. Et je suis totalement off et en repos actuellement pour pouvoir aller vite mieux et repartir vers de nouvelles
projets, voilà. Mais reprendre le temps. Ce qui est finalement le plus compliqué, c'est d'admettre que là, ça va pas.
Ouais, je pense que déjà, il y a des gros tabous quand même sur le burn-out, sur la santé mentale et sur la santé des dirigeants.
J'ai justement une question. Donc, je la lance et puis on continue sur ce sujet. Question de Madinès. Je crois que c'est Louis Carl qui la pose.
Vous avez un message.
Bonjour Ségolène, pourquoi penses-tu que la santé mentale des entrepreneurs passe autant inaperçue aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un tabou du côté des entrepreneurs qui n'osent pas en parler ?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros tabou parce que moi, quand j'ai annoncé... Déjà, moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter moi-même parce que j'étais là... Non, ça va aller, je vais me battre, etc. Et puis, en fait, ça va pas aller du tout. Et mon corps qui me lâche. Et donc, quand tu as des symptômes physiques, c'est beaucoup plus simple d'arrêter. Parce que quand ton corps, il peut plus avancer. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de dirigeants qui ont du mal à l'accepter. Encore la semaine dernière, j'étais avec un dirigeant qui avait fait un AVC et qui avait repris une semaine après son travail. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Mais parce que je pense qu'il y a les deux côtés. La société a du mal à accepter que finalement, les Français sont quand même beaucoup dans la critique. Ouais, mais il l'a mérité, etc. Mais mine de rien, il y a quand même énorme pression sur les entrepreneurs. D'autant plus quand tu es dans des phases de crise, d'inflation, etc. Et donc, les entrepreneurs se prennent une marée de mauvaises nouvelles continuellement et doivent les encaisser. Surtout, d'en parler, c'est faire fasse quelque chose, comme c'est pas physique et c'est pas un cancer, et je veux dire, limite tu l'as cherché, ont beaucoup plus de mal à en parler, sont beaucoup plus pudiques, et voire n'en parlent jamais. Moi, quand j'ai annoncé mon départ et que j'ai dit les raisons de mon départ, j'ai eu un dirigeant qui m'ont appelé, m'ont dit bravo pour la transparence. Je lui ai dit, enfin attendez les gars, j'allais pas inventer une autre excuse. Je suis malade, effectivement. Bon, peut-être que moi c'était plus simple parce que j'avais le physique à côté, avec des soucis de la moelle épinière, etc. Donc, c'était plus simple, mais ceci dit, j'étais ultra étonnée du nombre d'appels de personnes qui sont confiées. Moi, j'ai pas osé le dire, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de côté pudique, le côté on est fort, on représente l'entreprise, et quand ça va pas, bah peur d'embarquer plein de gens, et c'est tel dommage que ça soit encore autant tabou.
Et puis parce qu'il y a aussi peut-être la peur du prochain projet et qu'on ne donne pas assez de crédibilité parce qu'on est passé par cette phase-là. Est-ce que tu crois qu'il y a ça aussi dans ce tabou ?
Non, je ne pense pas, parce que quand on est en burn-out, on ne pense pas au prochain projet. On n'arrive même pas à penser à son projet actuel. Non, je pense qu'il y a... déjà, je pense que beaucoup de dirigeants et d'entrepreneurs sont des hommes. Donc, les hommes ont un ego quand même beaucoup plus fort, et ça on le sait, que les femmes, et donc beaucoup plus de pudique à l'avouer, à l'assumer. Moi, j'étais avec un ami récemment, il a fait un burn-out pendant 2 ans, il n'a pas pu parler. C'est-à-dire que sa voix, elle ne sortait pas de sa bouche pendant 2 ans. En plus, il était dans la com, etc. Il a mis énormément de temps à en parler, etc. C'est parce que je pense que comme c'est pas encore de l'ordre de la santé physique, où on va dire que c'est pas de notre faute quand on a malheureusement une cancer, leucémie, et donc du coup c'est beaucoup plus facile à assumer, et encore les cancers en entreprise sont difficilement assumables, le burn-out c'est peut-être plus cherché, voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est des sujets qui sont compliqués en entreprise.
En tout cas, bravo d'en parler avec cette transparence. Tu disais autre chose là dans ta réponse à Louis Carl. Tu disais l'entrepreneur, il se prend des marées, il y a un stress de dingue, surtout dans des périodes de crise. Il y a le côté solitude du dirigeant. Je vais en parler après, mais moi, j'aimerais revenir sur autre chose, c'est que qui est aussi très lié au levée de fonds dont tu parlais tout à l'heure, où il y a un côté où dans les médias, on glamourise, entre guillemets, l'entrepreneur, celui qui lève des fonds, ou l'entrepreneuse, hein, ça peut être aussi des femmes, le côté très, qui peut être un peu très ou trop paillette de l'entrepreneur. T'en penses quoi, toi, de cette mise en avant ?
Alors moi, je vais être ultra cash, c'est un enfer. Aujourd'hui, je suis désolée... t'as pas un seul Français qui aime se balader sur LinkedIn. C'est la course, il y a quand même un ego dans cet écosystème, d'impression que c'est qui a la... Enfin, vraiment, hein, c'est pas possible. Aujourd'hui, les médias, pendant des années, et les fonds, ont vraiment, c'était mis en avant seulement et uniquement des entrepreneurs qui avaient levé des fonds, alors qu'à côté, t'avais des business comme Superprof qui faisaient 8 fois plus d'EBITDA, 8 fois plus de CA, mais comme ils avaient pas levé, ils étaient moins sexy. Et c'était vraiment un ras-le-bol. C'est pour ça que le club Bootstrap, on l'a créé. C'est qu'à un moment, on était là. En fait, nous, on n'a pas levé de fonds, donc en fait, on n'est pas du tout sexy, même sur le recrutement. Enfin, vraiment, sur le recrutement, on n'a pas levé de fonds, donc en fait, les candidats viennent pas nous voir. Sur les clients, enfin, vraiment, et je trouve ça incroyable de se dire, lever des fonds. Et en France, c'est facile. C'est facile. En tout cas, à l'époque, il y a énormément d'argent. Tu sais à peu près bien parler. Tu sais convaincre, tu y crois à fond. J'ai envie de te dire, tout le monde peut lever des fonds. Par contre, tout le monde ne peut pas mettre une boîte rentable, profitable, et la faire grossir. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'avoir une boîte qui lève des fonds qu'avoir une boîte qui lève pas de fonds. Donc, c'est ça qui m'exaspère un peu dans ce milieu-là, c'est qu'on met des paillettes sur ce qui est le plus simple aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Et c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, tout d'un coup, les fonds, les médias se mettent à contacter les entreprises bootstrappées. Pendant des années, ils ont craché dessus, et maintenant, c'est le nouvel Eldorado. Pourquoi ? Parce que le marché s'est retourné, parce qu'en fait, on se rend compte que toutes ces boîtes qui ont fait que lever sur lever, elles ne savent pas comment gagner de l'argent, elles n'ont même pas réfléchi à une notion de business model, elles ne savent pas comment être rentables, il n'y a plus d'argent, donc elles ne peuvent plus lever, elles vont mourir. Et donc, ils vont perdre majoritairement leur investissement. VS, toutes ces boîtes qui sont bootstrappées et qui sont des formidables exemples pour les Français. Et moi, j'ai tellement d'admiration pour ces boîtes 100% bootstrappées VS des boîtes qui lèvent.
Donc, stop à la paillette sur la levée.
Ouais, et je pense que, en fait, ce qui manque un peu dans ce milieu-là, c'est l'humilité. En fait, t'as l'impression, quand tu regardes LinkedIn, hier, j'étais avec une nana entrepreneuse qui me disait, je déprime, c'est trop dur en ce moment. Je lui dis, mais en fait, c'est dur pour tout le monde en ce moment. En ce moment, moi, je suis tellement d'entrepreneurs qui sont en galère, qui sont à deux doigts de déposer le bilan, c'est tout le monde. Et pourtant, sur LinkedIn, tu vois que des extraordinaires de réussite. Et en fait, ce qui manque, c'est que les gens, ils parlent pas. Les gens, ils ont trop d'ego et ils manquent de l'humilité dans ce milieu-là, qui fait que les gens peuvent raconter leurs galères et dire « Non mais attends, moi, par là où t'es passé, je suis passé, j'ai failli crever 3 fois, mais je suis encore là. » Et je trouve que c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que LinkedIn, c'est la course à l'ego, c'est la course à qui fait le mieux, c'est la course, et tu regardes ça et tu te dis « Mais moi, je suis une merde, attends, tous ces gens, ils cartonnent, ils réussissent, et puis moi, à côté, je suis en dépôt de bilan, je suis en galère, faut que je convainc... » Et donc, c'est ça le problème, c'est que les gens parlent peu, et parlent que de ce qui va bien, et pas du tout des phases où ils ont été en grosse galère. Ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est que la majorité d'entrepreneurs sont en galère, le marché est extrêmement compliqué, que la majorité des boîtes essayent de s'en sortir, et pourtant, tu regardes ce qui est la représentation par les médias et LinkedIn, c'est dans le meilleur des mondes. Et donc, ça apporte beaucoup de stress en plus aux entrepreneurs, surtout que les entrepreneurs se comparent beaucoup. Et ça, faut arrêter. Il faut raconter aussi les galères par lesquelles les entrepreneurs passent. Et il faut raconter que l'entrepreneuriat, c'est pas tout rose. Enfin, je veux dire, la majorité des entrepreneurs peuvent te dire bah, moi, parfois, j'aimerais bien être en CDI. Et tous les gens qui sont dans le salariat disent oh, l'entrepreneuriat, c'est la voie rêvée. Non, c'est faux. C'est pas la voie rêvée du tout.
Il y a beaucoup de galères qui sont pas mises en avant.
Beaucoup de galères qui sont pas mises en avant.
Ton premier ego trip avec Team Starter.
Ouais, je pense que c'est premier client. Premier client signé, première réussite. Tu te dis que tu as un business model, tu te dis que tu as des gens qui sont prêts à acheter ce que tu fais. Tu as eu 6 mois de galère pour les convaincre. Ouais, ça a été ça où lorsqu'un des dirigeants du 440 a accepté de me rencontrer assez facilement. Ouais, ça, c'est des très, très belles victoires. Ouais.
Ta première nuit blanche.
Ma première nuit blanche, je pense que ça a été juste avant d'accoucher. Qui sont pas sur des sujets pro.
Ce que je peux comprendre. ta première déception.
Ma première déception, je pense que c'est le monde du travail qui me l'a apporté. C'est-à-dire que je pensais avoir signé un client. C'est ce que je dis beaucoup à des amis entrepreneurs que j'accompagne. Tant que c'est pas signé les gars, quoi. Et premier go, écrit, oral, déplacement, enfin vraiment gros contrat qui allait vraiment apporter de la croissance, etc. Et ça s'est pas fait, bien sûr. Le contrat s'est pas signé, on n'a jamais signé ce client et ça a été annoncé aux équipes, enfin en externe, la totale, un séminaire. Si les équipes, elles écoutent, elles rigoleront. Et vraiment, ça a été fêté et célébré pour un contrat qui n'a jamais eu lieu.
Bon, au moins, vous avez fait la fête.
Au moins, on a fait la fête, ouais.
Premier coup de culot.
Premier culot, je pense que c'est quand j'ai pris mon téléphone et que j'ai passé un coup de fil à des patrons du 440, alors que je ne les connaissais pas, ou même à Édouard Philippe, alors que je ne les connaissais pas, pour leur demander qu'ils prennent une heure pour me rencontrer.
Et qu'est-ce que je suis raconté à Édouard Philippe ?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance, il n'a pas répondu. j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, mais je voulais leur raconter la même chose que je rencontre un Martin Bouygues, lui donner envie de passer une heure avec moi pour lui raconter ce que je fais et comment on va changer le monde.
Bon, bah, si Édouard nous écoute, c'est jamais.
Ouais, ouais, j'étais à une conférence récemment. Édouard, je réponds à mon mail.
C'est quoi le plafond de verre que tu as dû faire sauter pour en arriver là où tu es aujourd'hui ?
Je pense que la croyance limitante au plafond de verre que j'avais, c'était de me dire que Team Starter devait passer par une cible RH. Et à partir du moment où j'ai pété cette croyance en me disant « Non, non, en fait, tu vas venir adresser les DG, tu vas adapter ton discours », la boîte, elle a décollé. Et on a signé nos premiers clients et on en est là aujourd'hui parce que on a eu le génie d'aller adresser ces dirigeants-là.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
À quoi tu rêvais quand tu étais petite fille ?
Je voulais être espion.
Espion ?
Ouais.
C'est-à-dire ?
Pour la CIA où je m'étais dit que je ferais une très bonne espion. Sauf que je suis pas du tout discrète. cette voix m'a vite été supprimée, éliminée.
Qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire ça ?
je sais pas...
Un film, un dessin animé.
Ouais, avec mon petit frère, on jouait aux espions quand on regardait Totally Spies et je me suis dit, je vais être espionne, quoi. Je sais même pas, voilà.
Tu disais tout à l'heure, j'avais fondamentalement envie d'aller vers l'entrepreneuriat. Tu venais d'une famille d'entrepreneurs, tu avais des exemples d'entrepreneurs autour de toi ?
Oui, en fait, j'ai mon père et ma maman aussi. Et mon papa m'a toujours dit « entreprends, entreprends le plus vite possible ». Parce que c'est plus compliqué quand on a 50 ans, c'est plus compliqué quand on a 3 enfants. Et c'est pour ça qu'à 23 ans, j'ai commencé à entreprendre. Et c'est marrant parce qu'on la dernière fois, on posait la question « c'est quoi ton ambition ?» Et moi, en fait, j'ai jamais vraiment eu d'ambition. J'ai l'impression que c'est plutôt mon entourage qui a une ambition pour moi. Mais l'entrepreneuriat, c'était assez évident, quoi. Et d'ailleurs, je me vois pas faire autre chose aujourd'hui que de l'entrepreneuriat, quoi. Donc, je sais pas, c'est une voie qui a été auto-tracée et je suis atterrie. Et après, c'est une histoire de rencontre. J'ai rencontré des personnes incroyables sur ma route et sans ces rencontres-là, j'en serais pas là du tout aujourd'hui.
Tu veux nous parler de ces personnes ?
Oui, des personnes qui m'ont donné la chance alors que j'étais pas grand chose. Je pense à Denis Fayolle.
Ouais. Tu l'as rencontré dans quel cadre ? Avec Dauphine ou
non, j'étais en leveur de fonds. Donc j'avais levé pour lui et une de ses boîtes Habitéo un peu moins de 5 millions d'euros. Et il m'a donné la chance. J'avais 24 ans. J'étais encore en études et donc il m'a accompagnée, il m'a formée parce qu'en fait moi je voulais monter une boîte, mais enfin entre vouloir monter une boîte et tu commences par quoi, tu fais quoi. Enfin Denis il a été incroyable, d'une humilité aussi. Justement j'aime pas ce milieu parce que c'est ego trip. Denis, il est incroyablement humble et incroyablement brillant sur plein d'aspects. Ensuite, bah forcément, Cyril et Antoine qui m'ont donné ma chance quand j'étais une simple étudiante. Et j'ai eu énormément de chance d'arriver dans une start-up comme ça, où j'ai été poussée. Forcément, des parents qui m'ont toujours poussée, un mari. Enfin, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance de la personne à qui j'ai croisé quoi, ma route.
Et toutes ces personnes, justement, dans l'épisode que tu nous racontais juste avant sur le burn-out, elles ont été présentes, elles ont compris, elles t'ont soutenue dans cette... dans cette phase que tu traversais.
Oui, en fait, après, j'en ai pas parlé à énormément de monde. J'en ai beaucoup parlé à Denis parce que Denis, il accompagne beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entrepreneurs et il a été confronté à ça. Mais oui, j'ai eu un soutien incroyable de mes proches et de mon entourage et aussi de mon entourage professionnel avec. Des entrepreneurs comme Grégoire Gambato, ouais. Qui m'envoyait tout le temps des messages, qui promène des nouvelles, qui fait partie du club Bootstrap, qui est dans sa dernière boîte plus bootstrappé, mais vraiment des personnes comme ça, Will de Superprof, enfin vraiment des gens qui, dans le milieu pro, m'ont soutenu et ça fait la différence.
On parle de lui, alors je pense que c'est le moment de lancer sa question.
Vous avez un message ?
Ségolène, j'aimerais savoir d'où vient toute cette énergie, quoi. J'ai l'impression de ne pas en manquer, mais quand je te vois, je vois une leçon à la fois d'énergie, de motivation. Tu déplaces des foules. C'est quoi ton secret ?
Mon secret, je pense que je suis sincèrement hyperactive. J'ai jamais pris de café de ma vie et j'en ai strictement rien à faire des regards des autres. C'est-à-dire que le regard des autres m'importe peu. Je peux arriver dans une salle et j'ai envie de danser, je vais danser. Et vraiment, ça a tellement peu d'impact pour moi que je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Donc parfois, je fais plein de gaffes. Il y a plein de gens qui me détestent parce que j'ai pas fait le bon move au bon moment, mais j'en ai rien à faire.
Et ça a toujours été le cas.
Et ça a toujours. Ma mère, elle me faisait des conneries, pas possible. Il y a des œuvres d'art au musée, elle me dit vas-y, fonce dessus, je fonçais dessus.
Donc t'as été encouragée dans cette voie.
J'ai été encouragée dans cette voie. Oui. Ma maman m'a transmis beaucoup cette hyperactivité, cette énergie. Et voilà. Et je pense que quand tu as peu d'importance sur le regard des autres, tu te donnes encore plus. Moi, ça m'arrivait souvent dans mes locaux d'arriver, de mettre de la musique à fond et de danser. Mes collaborateurs dansaient ou pas, peu m'importe. Mais moi, à ce moment-là, j'avais décidé de le faire. Et je pense que mon secret, c'est de... En fait, il faut être calme dans la société, il faut être posé. Moi, j'en ai rien à faire de ce que la société me dit quoi faire. Et si j'ai envie d'être à fond les ballons, je suis à fond les ballons. Et je suis très heureuse comme ça.
Et c'est aussi une forme de forte confiance en soi, non ?
Alors, c'est marrant parce que beaucoup de gens pensent que j'ai une énorme confiance en moi, mais je pense que je suis celle qui a le moins de confiance en moi. Et je pense que justement, c'est parce que j'ai pas confiance en moi
que t'as décidé.
Que j'ai décidé qu'on le verrait pas et que derrière cette énergie, je casse justement une confiance plutôt faible. J'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur, comme la majorité des entrepreneurs, mais effectivement, ouais.
Qu'est-ce que toi, t'as envie de transmettre à ton fils ?
Que le travail, c'est pas le plus important, vraiment. Parce que là, je le dis avec des mots joyeux, etc., mais j'ai vécu une année 2023 qui a été très, très compliquée, la pire année de ma vie, où ma vie a été en danger et j'en ai tiré une leçon. Dire oui, c'est important le boulot, oui, c'est important, mais ce qui compte à la fin de la journée, c'est les gens qu'on aime. Et moi, je sais pas si j'ai jamais été vraiment carriériste, j'ai jamais fait tout ça pour une question d'argent, mais j'ai arrêté parce qu'à un moment, je me suis dit, je pourrais pas expliquer à mon fils pourquoi je suis pas là le soir. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre à mon fils, dire le travail, c'est important, mais il y a plein d'autres choses dans la vie qui sont importantes, comme la famille et la santé. Et la santé, ça tient vraiment qu'à un seul fil et qu'il faut y faire hyper, hyper gaffe. Et après, j'essaie de lui apprendre la persévérance aussi.
Et le fait de rien en avoir à faire du regard des autres.
Ouais, bien sûr.
Ça, c'est hyper important.
Hyper important.
Il y a des choses que tu as changées dans ta vie, forcément, ces derniers mois. Est-ce que tu t'octroies, par exemple, plus de temps pour toi sur des activités que tu ne faisais pas avant, quand tu étais...
C'est très compliqué de répondre à cette question parce que tous les gens, quand je leur dis que j'ai arrêté de travailler, ils sont là, waouh, tu vas faire plein de trucs et tout, de la poterie et tout. Et moi, je suis là, ouais, non, mais en fait, vous n'avez pas compris. Moi, je ne suis pas du tout. Je ne me suis pas mis à l'informatique, à la poterie.
Ou au yoga, du
matin
au soir.
Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de passion, à part je suis passionnée par le business et passionnée par les gens. J'adore faire des nouvelles rencontres, j'adore ça. Donc, je prends du temps pour moi, mais à ma manière. C'est-à-dire que bah, là, je rencontre plein d'entrepreneurs. En fait, j'essaie de rencontrer le plus d'entrepreneurs possible sur le plus de secteurs possibles différents pour savoir là où j'ai envie de repartir, qu'est-ce qui va être fait pour moi avec mes nouvelles conditions. Voilà.
Bah, c'est déjà pas mal.
Ouais.
On sait jamais, 2027, c'est dans pas longtemps. Peut-être que ton projet, après avoir parlé à Édouard Philippe, c'est de rentrer dans une équipe de campagne, je ne sais pas. En tout cas, imaginons que tu arrives à la plus haute fonction de l'État. Si Ségolène, tu étais présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais ?
Ah, c'est une bonne question. Et je pense qu'en plus, j'ai mes chances. Donc, je vais répondre sérieusement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le premier problème de l'inégalité homme-femme part du congé mat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes ont 3 mois à peu près de congé maternité et un homme a pas à peu près 1 mois. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre cette différence. Moi, elle a été très dure à vivre. C'est-à-dire que moi, j'avais 3 mois. Donc, au bout de 3 semaines, mon mari il s'est remis à travailler. Moi, j'étais apte à retravailler, mais parce que j'étais la nana, j'ai dû rester à la maison, m'occuper de mon fils et il n'y a aucun problème. J'ai pas dit que j'ai adoré cette période-là, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que quand on t'annonce qu'en tant que femme, tu vas être enceinte, tout de suite, n'importe qui va dire « Oh merde, allez, 6 mois. 6 mois. » Et donc, alors quand c'est un homme, pas du tout. Et donc, je pense que si tu rééquilibres, par exemple, en Espagne, le congé mat avec le congé pat, et donc chaque personne a, par exemple, 3 mois, et qu'il est égalitaire, déjà, ça permettrait aux femmes de se sentir sur un pied d'égalité et pas d'avoir la boule au ventre quand elles doivent chercher un nouveau travail ou quand elles doivent annoncer à leur travail actuel qu'elles sont enceintes.
D'autant plus que quand on est entrepreneur, le congé mat,
ça existe pas.
C'est un concept en fait.
Ouais, moi, j'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement et j'étais forcée après de faire un congé mat. Et je pense d'ailleurs c'est mon fils qui m'a envoyé un signe en mode
lève le pied,
il le faut. C'est vrai que ça a été très compliqué. Enfin, franchement, c'est très compliqué effectivement. Façon d'avoir des enfants et d'être une femme dirigeante ou entrepreneuse. Et j'ai énormément de respect pour ceux qui arrivent parce que c'est un combat, quoi.
Wow. On a parlé du Covid tout à l'heure avec Team Starter. Pour certains, ça a été une vraie claque, ce Covid, enfin pour beaucoup, parce qu'on ne connaissait pas le mot confinement il y a encore 4 ans. Toi, c'est quoi la plus grosse claque que tu as prise ?
Moi, ma plus grosse claque, ça a été ma santé. J'ai perdu 25 kilos en moins de 3 mois. Mon corps qui ne me suivait pas. J'ai toujours été méga forte. J'ai toujours tout contrôlé dans ma vie. Tout a été facile. Ma vie a été un peu tracée, c'est-à-dire tout était facile, j'ai jamais eu de complexité dans le travail, j'ai toujours eu des superbes opportunités, je me suis toujours épanouie, j'ai toujours été forte dans ce que je faisais, en toute humilité, je me suis mariée à l'homme que j'aime. Mais vraiment, quand mon corps m'a lâchée, ça a été une énorme claque, parce que je m'y attendais pas du tout, et parce que j'avais l'impression que j'étais dans le contrôle de tout. Et en fait, la santé, tu contrôles pas, et quand ça t'arrive, tu fais un peu moins la maligne. Ouais.
Et surtout, est-ce qu'on a le sentiment aussi que ça arrive aux autres, que ça va pas nous arriver?
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, moi, ce qui a été plus dur, ça a été de malade devant mon fils. C'est-à-dire que, et ça m'arrive encore, quand je vomis ou vomir sur mon fils, ça a été extrêmement dur, ou d'être à l'hôpital et qu'ils m'entendent, parce que du coup, par mimétisme, ils vomissaient aussi. Vraiment, ça a été extrêmement dur, parce que en plus, j'étais malade et en plus, j'avais la culpabilité de me dire, putain, il est en train de me voir, sois forte, mais j'y arrivais pas et je pouvais pas. Donc ça a été une claque monumentale de 2023. De toute façon, 2023, ça a été une claque constante sur tout ce qui m'est arrivé.
Et est-ce qu'aujourd'hui, en tant que toujours entrepreneur, parce que je sens bien qu'un nouveau projet va bientôt naître, c'est des sujets sur lesquels tu as envie de t'engager auprès de je sais pas qui, sur justement le sujet de la santé mentale des dirigeants?
J'ai envie de m'engager là-dessus parce qu'on pense toujours que ça arrive qu'aux autres. On pense toujours que le burn-out, c'est quelque chose d'assez facilement réglable. Et pourtant, je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui sont entrepreneurs et qui sont à deux doigts d'y passer. Et tu peux mettre énormément de temps à te remettre sur pied. Et je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de monde de un peu plus parler de la santé des dirigeants et même de la santé en entreprise, hein, parce que j'ai une nana, quand j'ai publié sur LinkedIn et que j'ai annoncé mon départ pour des soucis de santé, elle m'a tout de suite appelé. Elle est dans un grand groupe, elle a un cancer, et elle m'a appelé parce qu'elle savait pas comment l'annoncer, elle avait peur, elle disait ah, bravo pour ta transparence. Et donc je pense que s'il y a un vrai tabou là-dessus, et il faut pas que ça en soit un, et d'autant plus encore plus chez la partie les dirigeants.
Oui, parce qu'il y a la peur de plus exister dans le système, enfin de l'entreprise ou le système social, si on se met en retrait.
Ouais, exactement. Et puis, quand est-ce qu'on va pouvoir revenir? Parce que, est-ce qu'on va pouvoir revenir? Effectivement. Comment on va me juger? Enfin, c'est des sujets qui sont pas qui sont compliqués, justement.
Et le stress aussi lié aux assurances, aux prêts, aux machins. Si je dois dire que j'ai eu ça, comment ça va se passer pour la suite?
Ouais, et puis aussi faut le dire, hein, le stress de te dire, enfin moi en tout cas, comment je l'ai vécu avec mes soucis de santé, c'est de dire est-ce que je vais pouvoir retravailler, quoi. Mmh. Et moi qui suis une passionnée du boulot, pendant plusieurs mois je ne savais pas, enfin vraiment je savais pas, je me pensais incapable, les médecins étaient ultra, enfin vraiment c'est quelque chose qui a été très compliqué quand on est une passionnée, de te dire est-ce que tu vas pouvoir retravailler, et quand tu passes par là tu te dis ah ouais, va falloir que je fasse gaffe. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a jamais travaillé le week-end, qui a jamais fait des nocturnes à 22-23 heures. Enfin, je veux dire, j'ai des horaires corrects, j'ai toujours eu un bon équilibre vie pro vie perso. Donc, c'est même pas comme si. C'est pour ça que le burn-out n'égale pas des horaires effrénés à bosser le week-end. Moi, quand tu me dis nuit blanche sur Team Starter, j'en ai rarement fait. Enfin, je suis quelqu'un de plutôt équilibré sur ce plan-là. Moi, j'ai beaucoup de bonheur à rentrer pas trop tard pour voir mon mari et mon fils. Et même quand avant d'avoir un enfant. Donc, et pourtant, ça m'est arrivé en plein fouet. Faut faire attention, quoi.
On arrive à la fin de cet épisode. J'aime bien demander à mes invités si elles avaient dû choisir une femme entrepreneur qu'elles admirent, elles auraient choisi qui et pourquoi. Alors, je te pose la question, Ségolène, toi, tu choisirais quelle femme entrepreneur?
Moi, je choisirais Charlotte Jacquot de Tchac. Parce que je la trouve incroyable. C'est aussi une jeune maman qui a des jumelles, qui a entrepris un projet avec ses sœurs de faire le Netflix de la cuisine. Elle passe quotidiennement par des montagnes russes. Elle a eu quelques, enfin voilà, moi je l'admire par sa force et sa détermination. Moi, j'étais en galère avec un, elle en a deux jumelles. Enfin voilà, elle est et surtout un secteur qui est très très compliqué dans l'audiovisuel, etc. Mais elle se bat, elle est incroyable. Ça fait plusieurs années et vraiment une femme formidable, entrepreneuse formidable.
Eh bien, merci pour ce coup de projecteur. Un grand merci d'être venu dans le studio aujourd'hui, d'avoir parlé avec autant de transparence de tous ces sujets, parce que je pense que ça va rendre service à beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Donc, merci pour cet engagement que tu prends et à très bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup, Solène.